Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal du studio Kalangou. Présentation Hawa Maman. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'inquiète de la situation humanitaire au Niger. Environ 3 millions de personnes, dont plus de la moitié composées par les enfants, sont concernées. Le ministre nigérien des enseignements primaires était à Tillabéri mardi où il a tenu une réunion de haut niveau. Il était question de trouver les solutions aux problèmes de l'éducation confrontés à l'insécurité. Existe-t-il une relation entre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes? La juriste et pénaliste Souheba Ibrahim nous livre son analyse dans la partie magazine de ce journal. Au Niger, près de 3 millions de personnes, dont plus de la moitié représentent les enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. La détérioration de la sécurité dans les zones frontalières avec le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria entraîne des mouvements de population et augmente la vulnérabilité des enfants, a annoncé hier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dans un communiqué. Les détails avec Rahila Toussoumana.
Les attaques contre des civils dans la région du lac Tchad ont touché près de 263 000 personnes à Difa. L'insécurité est croissante le long des frontières avec le Burkina Faso et le Mali a augmenté les besoins à Tillabéri et Tawa, où près de 78 000 personnes ont été déplacées. À la frontière avec le Nigeria, des dizaines de milliers de personnes se sont réfugiées dans la région de Maradi. Toutes ces personnes ont besoin d'accéder aux services sociaux de base. Cependant, l'UNICEF a relevé que dans ces zones, l'attention a tendance à être reportée sur les dimensions sécuritaires et la réduction des investissements dans les services sociaux, selon l'UNICEF, a un impact direct sur l'accès des personnes à l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un appel à la solidarité afin de répondre aux besoins urgents de ces populations dans les zones de conflit, où qu'elles soient, rapporte l'UNICEF.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, par la voix de sa représentante au Niger, s'est dit choqué et attristé par la mort en début de semaine à Difa d'au moins 20 personnes suite à une bousculade à l'occasion d'une distribution de dons. Ces dons composés de vivres et d'argent en espèces étaient distribués par les représentants des autorités nigériennes en visite sur place et destinés aux réfugiés nigériens ayant trouvé refuge dans cette région. Nous apprécions tous les efforts mis en œuvre par des particuliers pour aider les réfugiés. Toutefois, nous demandons instamment que ces efforts soient coordonnés avec les autorités locales au Niger ainsi que les organisations humanitaires, a ajouté Alexandra Morelli, représentante du HCR. Au sujet du besoin d'aide des populations rendues vulnérables à cause de l'insécurité, selon Jory Ibrahim, le coordinateur de l'Observatoire du droit alimentaire et à la souveraineté alimentaire, cette situation indique que le droit à l'alimentation n'est pas respecté au Niger. Selon lui, les enfants constituent la couche la plus exposée. Il est au micro de Tamnan Foudey Ahmed.
C'est clair que toutes ces personnes qui sont répertoriées comme étant de l'incapacité par elles-mêmes de subvenir à leur alimentation sont les personnes dont le respect du droit à l'alimentation est violé. Maintenant qu'on a constaté qu'ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et qu'on ne fait pas maintenant l'effort pour leur venir en aide, si on les laisse vivre dans la faim, dans la soif, c'est une violation de leur droit à l'alimentation. L'État est presque totalement en retrait. Il abandonne les citoyens à leur propre sort. On laisse les acteurs humanitaires mobiliser les fonds et aller organiser aussi la réponse comme bon leur semble, selon la limite de leurs possibilités. On en arrive à ce stade où ceux qui ont besoin de beaucoup plus d'attention sont ceux qui sont les plus exposés à la faim. C'est vraiment assez choquant.
L'insécurité a occasionné la fermeture de 350 établissements scolaires dans la région de Tillabéri à ce jour. C'est pour trouver des solutions que le ministre des Enseignements primaires a présidé mardi à Tillabéri une réunion de haut niveau sur la situation de l'école dans la région. À l'issue des échanges, plusieurs propositions de sortie de crise ont été faites. Hamada Yakuba, directeur régional adjoint de l'éducation de Tillabéri.
Le ministre est venu rassurer les populations sur la situation des communes comme Anzuru et Dessa, où les enseignants se sont repliés à Tilabéri pour qu'ils retournent sur leur poste afin que les élèves poursuivent leurs éducations. Car la situation sécuritaire ne doit pas priver ses enfants d'une année scolaire. Déjà hier, nous nous sommes entendus sur des pistes de solutions, dont d'abord sécuriser les lieux pour permettre aux enseignants de regagner leur poste en toute quiétude. Ensuite, dans les zones d'insécurité, faire des regroupements des élèves de ces écoles dans un centre sécurisé. Et enfin, que les enseignants eux-mêmes sensibilisent les populations d'accueil sur le fait que cette situation est passagère et que chacun doit apporter sa contribution dans sa résolution. Car sans éducation, il n'y aura pas de développement local.
Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du Niger a débuté une grève de 72 heures. Ce jeudi 20 février, le SNEX exige le respect des droits professionnels découlant des libertés académiques et du principe de l'autonomie dans la gouvernance des universités publiques du Niger, notamment la réhabilitation du mode électif des recteurs et vice-recteurs. Le syndicat des universitaires exige par ailleurs le règlement de tous les droits statutaires des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur en souffrance dans les universités publiques du Niger. Les sultans de Lahir et de Zender et les chefs de canton et de groupement des régions d'Agadez, Zender et Tawa ont sillonné plusieurs localités de ces trois régions du 13 au 17 février 2020. Objectif, attirer l'attention des communautés sur la coexistence pacifique et sensibiliser les jeunes sur l'extrémisme violent. Explication de l'honorable sultan de Lahir, El Hadji Oumarou Ibrahim Oumarou. Il est au micro de Moussa Maman.
Nous allons l'amener à partir différente de Chintoulous, Zomo, Timiya, Aoudjara jusqu'à Agadez. Donc nous avons uniquement parlé de la paix, la restauration de la paix dans notre région. L'extrémisme violent dans notre région. Donc essayer de sensibiliser la jeunesse face à cet extrémisme violent. Essayer aussi d'attirer l'attention de nos communautés sur le bienfait vraiment de la coexistence pacifique entre les communautés. Donc nous allons tout au long de ce trajet-là expliquer, attirer l'attention de nos populations sur la paix et aussi nos imams pour qu'ils continuent à faire les lectures, les prêches pour que notre pays, le Niger, soit un havre de paix pour les communautés nigériennes et pour le Niger tout entier. Nous avons deux sultans, nous avons deux chefs de canton et une dizaine de chefs de groupement qui sont avec nous, avec lesquels on va sillonner vraiment ce trajet-là. Après Agadez, donc ceux de Tawa vont essayer de partir à partir d'Ingal, aller jusqu'à leur région, Tawa, en passant par plusieurs localités entre Ingal et Tawa. Le sultan de Zender aussi, avec la délégation qui l'accompagne, fera de Tigidit, Arbisnet, en passant par Tanout, pour essayer de rejoindre Zender sur le même thème.
L'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger réagit à l'annonce mardi de la levée de l'interdiction de la transhumance transfrontalière lors d'une rencontre entre autorités nigériennes et béninoises. La structure salue cette décision mais estime qu'il sera difficile de la rendre opérationnelle. Dodo Bourema, secrétaire exécutif de l'AREN, au micro de Assoumana China.
L'éleveur, quand il prend la décision d'aller en transhumance, il va aller. Comment va-t-il savoir qu'il y a déjà un tel nombre autorisé au Bénin ou pas?
Le Bénin demande au Niger de lui fournir la liste de ces éleveurs qui sont autorisés.
Ouais. Comment, de manière opérationnelle, est-il faisable? À quel niveau? À la rigueur, ceux qui passent par les points d'entrée peuvent s'inscrire. Même les organisations ne peuvent pas savoir tout de suite combien d'éleveurs manifestent leur volonté d'aller. En posant ces conditions, je ne vois pas comment elle peut être opérationnelle. Et si un éleveur, par méconnaissance, déroge, quelle est la sanction?
L'État du Bénin demande aussi à ce qu'on fournisse des certificats de transhumance aux éleveurs. Est-ce que c'est facile?
Bon, les éleveurs, à leur demande, pour le moment, avec leur insistance, ils peuvent avoir le certificat de transhumance. Mais maintenant, la période est en train de passer. La vaccination, les éleveurs veulent faire ça dans la période froide.
Une trentaine de personnes, dont des anciens salariés d'Orano, ex-Areva, ont porté plainte contre l'État du Niger devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour violation de leurs droits, dont le droit à un environnement sain, le droit à la santé et le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Des précisions avec Maître Élise Le Gall, avocate des plaignants, joint au téléphone par Tamnan Ahmed Foudaï.
L'objet de la procédure, c'est la violation par la République du Niger, d'une part du droit à un environnement sain, à un niveau de vie suffisant, du droit également à la santé et au droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, donc garanties par les articles 21 et 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Pourquoi l'AREVA, qui est aussi en partie responsable de la dégradation de l'environnement, n'est pas concernée par votre plainte?
Cette cour a la compétence pour entendre les causes contre les États qui sont membres de la CEDEAO et qui ont manqué donc à leurs obligations en vertu des textes applicables devant cette cour. Et en ce sens, elle a compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples afin donc d'assurer la protection des victimes de violations graves des droits de l'homme. Et c'est pour cette raison que seul l'État du Niger est visé, puisqu'elle n'a compétence que pour les causes qui visent des États.
D'anciens salariés de la société Orano qui exploite l'uranium à Ablitz et à Kokan ont porté plainte contre l'État du Niger à la Cour de justice de la CEDEAO pour diverses pathologies contractées qu'ils estiment liées à l'exposition aux rayons ionisants et à la pollution environnante. C'est ce que rapporte le journal L'Événement du 18 février. Pour le secrétaire général de l'ONG Aguirmen, spécialisé dans la protection de l'environnement, les éléments de preuve sont insuffisants pour porter plainte. Ramar Alatoufet est joint au téléphone par Nafisa Adamou Sirfo.
Dans les années 2000, lorsque les associations CRIRAD, Sherpa et Greenpeace ont fait des missions d'enquête au niveau des sites d'exploitation, on a vu qu'on n'était pas suffisamment documenté pour porter plainte et nous avons tenté l'expérience de l'entente avec les sociétés minières. Cela avait abouti. C'est vrai que quand ils ont préparé leur dossier, ils nous ont contactés, mais nous ne sommes pas entendus sur les principes de préparation de ce dossier-là. Donc nous ne sommes pas engagés dans cette plainte-là. Que nous, on estime que si plainte il devait y avoir, il faut d'abord étudier contre qui on peut porter plainte. Contre Areva, Orano, contre l'État du Niger, contre Sommeil ou Cominac. Ensuite, il faut avoir beaucoup de documents concrets pour porter plainte. Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans cette affaire d'exploitation des ressources naturelles et des conséquences, mais nous estimons que pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas suffisamment d'éléments nous permettant de porter plainte contre qui que ce soit.
Le Niger, pays d'accueil et de transit des migrants, voit passer sur son sol des hommes et femmes en proie à l'esclavage moderne. Mais quel rapport peut-il exister entre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes? La juriste et pénaliste Soueba Ibrahim nous explique les liens entre ces deux notions. Elle est au micro de Olivier Assogbavi.
La traite des personnes est une infraction qui est complètement à part, mais qui est très proche du trafic illicite des migrants. Si on prend l'infraction du trafic illicite des migrants, il consiste à recevoir de l'argent pour faire entrer illégalement une personne dans un pays étranger. Alors que la traite des personnes consiste à recruter, à transporter ou à transférer des gens dans le but de les exploiter elles-mêmes. Et donc, le trafic illicite de migrants est une infraction qui est exercée sur les frontières d'un État, alors que la traite des personnes est une infraction qui est exercée sur la personne de la victime. Mais le trafic illicite de migrants favorise la traite des personnes, puisque la traite des personnes est une infraction qui est exercée sur des personnes vulnérables. Et donc, quand vous êtes un migrant, vous êtes vulnérable parce que vous n'avez pas de papier, parce que vous êtes entré illégalement dans un pays étranger. Et en général, vous ne parlez pas toujours la langue de ces pays-là. Et quand vous êtes en illégalité, vous faites tout pour fuir la police. Alors que dans une situation d'infraction, normalement, c'est la police qui vous protège.
Le trafic des migrants facilite la traite des personnes. Oui. Alors, comment faire pour s'identifier dans l'un ou l'autre de ces cas?
Oui, parce qu'au fait, le degré de vulnérabilité n'est pas le même. Quand on est dans le trafic illicite de migrants, les gens payent eux-mêmes pour aller dans un autre pays. Et ils payent pas pour qu'on exerce une sorte de pouvoir sur leur propre corps. Non, eux, ils veulent seulement quitter un territoire pour aller dans un autre. Et du coup, nous nous trouvons dans une infraction internationale parce que ça concerne plusieurs pays. Dans certains cas, il y a un pays de départ, il y a des pays de transit et il y a un pays de destination. Alors que dans la traite de personnes, il n'y a pas de consentement. Quand vous kidnappez quelqu'un ou bien quand vous vendez quelqu'un aux enchères, cette personne ne peut pas consentir. Une personne ne peut pas donner son accord pour dire que oui, je consens à ce que vous me vendez ou je consens à ce que vous prélevez mes organes pour les vendre. Vous voyez, au fait, le degré, c'est surtout pour la prise en compte. Les migrants, ils savent très bien. Ils le font en connaissance des causes. Et des fois même, ils payent des sommes assez élevées pour atteindre leur objectif. Alors que la traite des personnes, c'est des gens qui n'ont absolument rien demandé, mais qui sont en train de subir des subisses. Ça peut être psychologique ou physique sur leur propre.
Donc, en conclusion, on peut partir d'un trafic illicite de migrants à une traite des personnes.
Oui.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.